En 1992, à Douai se déroule un procès hors du commun, celui d'une jeune fille, Ida, qui reconnaît avoir tué son propre père, Jean-Claude Bossard, pendant son sommeil de 3 balles dans la tête.
En juillet 89, à Salomé, dans le Nord, une adolescente de 17 ans abat son père à bout portant d'un coup de Luger 22 long rifle dans la nuque. La terrible conclusion d'une vie de maltraitance.
Vous écoutez Fait d'hier, le podcast du magazine Femmes Actuelles Senior. Chaque semaine, nous nous replongeons avec vous au cœur des grandes histoires criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Ida Bossard.
Chose est sûre, c'est que mon père me tapait pratiquement tous les jours. J'ai du mal à me rappeler une journée sans violence.
Connasse, déchet humain, erreur de la nature. Les injures s'abattent sur Ida en même temps qu'une volée de coups. Jean-Claude Bossard frappe, de préférence avec ses rangers et dans le ventre de sa fille quand il est particulièrement en colère. Et ce colosse d'1m90 et 130 kilos est en colère pour un rien.
Quand elle disait qu'elle a eu un mauvais coup, on lui disait « Oui, mais on touche pas, t'es la fille à Bossard. »
J'étais son poids lourd, j'étais son déchet humain. Il avait raison de me taper, vu que pour lui, j'étais mongolienne.
Un jour, alors qu'il fait cuire des saucisses au barbecue, il se retourne brusquement vers Ida et lui balance de toutes ses forces dans le tibia une boule de plomb. La douleur est atroce. La petite tombe par terre, se tient la jambe, sanglote. « Cesse de pleurer, la mongolienne, je te l'interdis !» Une autre fois, il fait descendre la gamine de sa chambre, un pistolet sur la nuque, et lui hurle « Tu n'es qu'une vermine, je vais t'abattre !» Il ne l'a pas abattue ce matin-là. Mais il le fera, c'est certain. Dans cette famille nombreuse du nord de la France, le père règne en tyran. Et tout le monde marche au pas, la mère et les 5 filles. Pourtant, Bossard n'a pas toujours été à ce point enragé. Quand Ida était petite, il l'appelait sa princesse, son chouchou, sa préférée. Il prenait ses filles sur son dos, faisait le cheval. Elle l'appelait mon gros nounours. Mais les jours heureux n'ont pas duré. L'ours est devenu féroce. Ida est née le 30 juin 72, près de Salomé, dans le Nord. C'est un bébé en mauvaise santé, atteint d'une malformation cardiaque qu'on appelle la maladie bleue. À 1 an, elle a failli mourir. Elle a été emmenée in extremis par hélicoptère à l'hôpital Laennec à Paris. Tout son village était en émoi, sauf son père. Avoir une fille cardiaque, pour Jean-Claude, c'est la honte de sa race. Lui qui aurait tant voulu avoir un garçon. Un beau gars à qui il aurait pu enseigner à se battre contre les crouilles, les bougnoules. Parce que la haine de Jean-Claude n'a pas de limite. Il déteste les Juifs, les Noirs, les Arabes. Bref, il déteste la terre entière. Mais Jean-Claude n'a pas eu de garçon, des filles seulement. Mathilde, Christine, Ida, Edwige et Erika. Des filles qu'il élève à la dure. Il leur interdit de porter des jupes ou des robes, les contraint à porter comme lui des pantalons noirs ou kakis et de larges chemises assorties pour cacher leur forme. La vie n'est pas facile pour la fratrie Bossard, pas plus que pour leur mère, soumise au même régime de terreur. Mais la hargne du chef de famille se focalise sur Ida. Sa maladie lui fait vraiment trop honte.
J'étais pas comme il l'aurait voulu. Même en faisant du sport, je n'y arrivais pas. J'arrivais pas à faire tout comme il voulait.
Il a la gâchette facile. Une fois, il tire au fusil dans le frigo. Une autre, c'est la machine à coudre qu'il vise. Puis, c'est la poupée qu'Ida a reçue de son oncle. L'enfant l'a récupérée en cachette et recousue. Mais Jean-Claude a retrouvé le jouet et l'a balancé dans le feu. Ce père monstrueux ne s'en prend pas qu'au jouet de sa fille. Il voudrait qu'elle crève. Il a bien essayé, quand elle avait 8 ans, de la faire tomber dans l'escalier. Mais elle n'est pas morte. « Je t'aurai », beugle-t-il. Pour l'endurcir, il l'oblige à cesser ses traitements médicaux. À la place, il lui fait manger des petites boules jaunes qu'il ramasse dans les champs. Il lui crie « Ton cœur lâchera !» Un soir, il lui fourre une bêche entre les mains. Il lui commande de creuser un trou bien profond pour qu'il puisse l'ensevelir. Frigorifiée et terrorisée, Ida creuse pendant des heures dans le noir. Sa mère fait ce qu'elle peut pour la protéger. Elle soigne en secret ses bleus. Elle parle de divorcer. Elle a mis un peu d'argent de côté à la banque. Lorsque son mari l'apprend, il rentre dans une rage folle. Les coups redoublent. La violence du père a fait des émules. Pour l'épauler dans ses basses œuvres, Bossard peut compter sur Mathilde, sa fille aînée. Elle obéit au doigt et à l'œil. Elle distribue sur commande des coups à ses sœurs. Et elle n'oublie jamais de saluer le portrait de Tonton Hitler installé dans l'entrée. Car le père, qu'on surnomme le nazi de Salomé, exige que ses filles rendent hommage à celui qui a débarrassé l'humanité des Juifs que Bossard ne peut pas encadrer. C'est la règle à chaque fois qu'elle passe dans le couloir.
C'est vrai qu'il y avait des affiches d'Hitler dans la maison, c'est vrai que les tortures dont il les menaçait, c'était des tortures qu'il lisait dans un livre nazi. C'est vrai que les dictées qu'on donnait aux enfants, c'était des dictées de Mein Kampf, et tout ça, ça fait quand même planer, régner un climat particulièrement violent.
Il leur apprend aussi à détester les Arabes et les Noirs, parce que c'est à cause d'eux qu'il est au chômage. Après avoir perdu son emploi de menuisier à l'usine, il n'a pas décroché le poste d'éboueur qu'il visait. Normal, puisque la mairie préfère embaucher des Noirs. Ça, il ne le digère pas. C'est à cette époque que l'enfer se déchaîne rue Saint-Michel-sur-Loire à Salomé. Sans boulot, sans rentrée d'argent, Bossard sombre dans le désespoir. Il carbure aux tranxènes et ne contrôle plus rien. Il n'a plus de limites. Et tout le monde en fait les frais. Il fait vivre un cauchemar quotidien à sa femme et ses cinq filles. Elles attendent avec angoisse la prochaine brutalité, le nouveau chantage. Tout le village a peur de lui aussi. Il est convoqué sans cesse par les gendarmes pour intimidation, coups et blessures, refus d'obtempérer, agressions racistes, menaces de mort. Bossard cumule les infractions, rebaptisé pudiquement « bêtise » par Ida et sa mère. Bossard vole aussi, dans les cours des fermes, les supermarchés. Il braconne et il gruge pour ne pas payer les factures. Il entraîne ses filles dans ses combines. Il leur apprend à bloquer le compteur EDF et les emmène en opération commando brûler les dons destinés à des familles immigrées. Qui dit entraînement, dit tenue de soldat et parcours du combattant. Il leur fait traverser le canal à la nage pour rejoindre la rive d'en face où Wolf, l'un de ses molosses, les attend en aboyant. Il les force à courir autour du stade jusqu'à épuisement après la sortie de l'école. Il s'acharne sur Ida, même si le cœur de la gamine menace de lâcher. Il impose aussi une dictée quotidienne, un passage de Mein Kampf et un atelier couture avec croix gammée et celtique à broder et ourler des drapeaux nazis à coudre. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi les chants allemands, les animaux à abattre pour s'endurcir et l'apprentissage du maniement des armes. Le quotidien de ces gamines atteint des sommets de violence.
Les professeurs ne voulaient pas me faire cours et ils me refusaient parce que j'avais le brassard avec la croix gammée.
À mesure qu'il s'enfonce dans le chômage, Jean-Claude Bossard se radicalise. D'abord militant lepéniste, il devient néo-nazi, puis adhère au Parti nationaliste français et européen. Il a le costume de l'emploi, chemise brune, cravate noire, pantalon kaki, ranger, brassard et croix gammée. Et il a le discours qui va avec. Il affirme « Blanche toujours, la France d'abord ». Appuyé du salut nazi « Sieg Heil, Sieg Heil ». Bossard est le prototype du sale type dangereux dont tout le monde a peur. Les voisins, la police, les assistantes sociales, les professeurs à l'école. Même ses copains militants trouvent qu'il exagère à toujours maltraiter sa famille. D'ailleurs, quand Ida cherche du secours, raconte ce qui se passe chez elle, montre ses bleus, personne ne bouge. « Que veux-tu, ma petite Ida? Nous aussi, on le craint », lui répondent les parents de ses rares amis ou les services sociaux.
Tout le village savait.
Bah oui.
Mais pourquoi personne n'a rien fait?
Il y a des assurances sociales qui sont payées pour ça.
Il y avait des représailles tout le temps.
Qui n'osaient jamais osé mettre les pieds. Les gens, ils savent tout, mais ils s'occupent de rien.
Pourquoi?
Parce que c'est pas aux gens de s'occuper des autres.
Alors, Ida essaie d'oublier et de trouver du réconfort auprès de sa chienne, Eva Braun. et dans les vapeurs de colle à vélo qu'elle sniffe avec sa sœur Christine, surnommée Kiki. En août 84, la violence monte d'un cran. Jean-Claude Bossard est impliqué dans un crime. Il a dans sa ligne de mire une famille algérienne, les Ben Hamida, qui habitent Embourdin, son village natal. Avec un copain, il va planter dans leur jardin une croix portant l'inscription « Mort au Bougnoul, vive Le Pen ». Le jeune Ben Hamida prend peur, porte la croix au commissariat. Sur le chemin du retour, il est abattu d'une balle dans la poitrine par l'ami de Bossard, chauffé à blanc par son mentor. Le meurtrier est emprisonné. Bossard, lui, échappe à la justice dans un premier temps. Mais l'affaire le rattrape 4 ans plus tard. En 88, le tribunal de Douai le condamne en appel à 8 mois ferme pour incitation à la haine raciale. Ses filles suivent la même pente. Christine a donné un coup de couteau à une élève de son lycée simplement parce qu'elle s'appelait Fatima. Et Mathilde a paradé avec une banderole du Parti nationaliste devant les caméras de télévision. Toutes ont assisté à la grande fête du parti dans un château en Sologne, avec skinhead et retraite au flambeau. À sa sortie de prison, Jean-Claude Bossard est pire qu'avant. Il frappe sa femme enceinte à coups de pied et de boules à pointe dans le ventre. Il fracasse le visage d'Ida avec un pot en bronze balancé en pleine figure. La tabasse. Il parade avec sa maîtresse totalement nue dans la maison, devant ses filles et sa femme, forcé de subir l'humiliation d'un ménage à trois. Un beau jour de juillet 89, c'en est trop pour Kiki. Elle fugue pour échapper à l'enfer quotidien du pavillon familial. Cette désertion est insupportable pour le père de famille qui perd complètement pied. Il est intarissable sur les tortures qu'il infligera à sa fille quand il l'aura retrouvée. La nuit, il oblige sa femme à patrouiller en voiture avec lui, un 22 long rifle sur les genoux au cas où il verrait passer Kiki. Il force Ida à livrer un faux témoignage au commissariat contre la fugueuse pour coups et blessures, espérant que les flics se chargent de la retrouver pour lui. Après l'avoir torturée à mort, déclare-t-il à qui veut l'entendre, il se fera exploser dans sa voiture avec le reste de la famille. C'en est trop pour Ida. Le 18 juillet 89, à 8h du matin, pendant que sa mère sort les poubelles, la frêle adolescente prend le Luger 22 long rifle posé sur le carillon de la salle à manger. Elle monte sans bruit l'escalier décoré d'affiches nazies et entre dans la chambre de son père qui dort, couché sur le côté. Elle contourne le lit, vise la nuque, tire à bout portant. C'est fini. Ida redescend, enroule le pistolet dans un chiffon, s'assied pour attendre sa mère. Lorsque celle-ci arrive, elle lui dit très calmement « Maman, j'ai tué papa. » Sur place, les gendarmes n'en croient pas leurs yeux. C'est elle, la meurtrière, cette gamine d'à peine 35 kilos qui a 17 ans en Paris 12. Pourtant, elle l'affirme. C'est bien elle qui a levé l'arme, visé et tiré sans trembler, exactement comme son père le lui a appris.
Si j'ai tiré sur mon père, c'était un premier tour pour sauver Christine. Mon père devait torturer ma sœur dans la cave. Mon père nous avait appris à manier les armes et tout. Il nous disait, s'il y a un ennemi ou un arabe qui rentre à la maison, il faut tirer. Pour ne pas avoir peur, il faut tirer. On apprenait à tirer sur des cibles. Et je me suis dit, Ida, il faut que tu sois courageuse, que tu sois forte. Et tu dois tirer. Et j'ai tiré. J'ai pas imaginé que c'était mon père. Quand mon père était devant moi, je me suis dit dans ma tête, comme si c'était une cible, et j'ai tiré, c'est tout.
Ida Bossard est incarcérée quelques jours à la prison de Loos. Ses codétenus et les matones la prennent sous leur aile, tout comme les gendarmes qui l'ont arrêtée, la juge et son avocate, maître Blandine Lejeune, commise d'office à 27 ans. Puis, elle est placée au centre d'éducation surveillée à Lille, où les choses se passent mal. Comme si elle avait déjà trop vécu à 17 ans, elle ne s'entend pas avec les jeunes de son âge. Elle se sent abandonnée par sa mère et ses sœurs qui ne viennent pas la voir et jugée par les amis militants de son père qui lui reprochent d'avoir liquidé leurs camarades. Son procès se tient à huis clos le 18 mai 92 devant la cour d'assises pour mineurs de Douai. Devant la cour, sa sœur Mathilde témoigne et reconnaît qu'Ida leur a sauvé la vie. Cas exceptionnel dans l'histoire judiciaire française, l'accusé est acquitté en moins de 40 minutes de délibération. Du jamais vu.
Ça me fait drôle d'être dehors. Puis je suis contente. Je suis acquittée, je suis contente.
La jeune fille n'en a pas pour autant fini avec la tragédie. Elle s'accroche à la bienveillance et au soutien infaillible de son avocate, mais cela ne suffit pas. Dans le récit qu'elle fait de sa vie à la romancière Françoise Hamel après son procès, elle raconte les fugues, la drogue et la vie de squat en squat avec Louis, un jeune alcoolique violent avec lequel elle aura une fille. Un bébé qu'elle n'élèvera pas. On lui retire la garde de l'enfant suite à la dénonciation de sa sœur Christine, qui prétend qu'Ida la maltraite. Dix-neuf ans plus tard, en 2008, Ida semble apaisée quand elle retourne à Salomé pour la présentation du film inspiré de son histoire, « Pleurs en silence » de Gabriel Biggs. Tout le village est réuni dans la salle des fêtes. Une séance émouvante pour ses voisins, services sociaux, gendarmes, cousins, qui savaient, mais n'ont pas bougé à l'époque pour faire cesser la violence. Pourtant, ce film qu'Ida a contribué à écrire ne sortira jamais en salle. Sa mère et ses sœurs s'y opposent. L'ex-madame Bossard, remariée à un militant ultra-violent d'extrême droite, ami de son défunt mari, prétend que c'est elle qui a tiré. Selon un pacte secret, conclu dans les minutes qui ont suivi l'assassinat, il aurait été convenu entre la mère et ses filles qu'Ida, mineure au moment des faits, se dénonce. Vérité ? Affabulation ? Jusqu'à présent, Ida a toujours démenti cette version du drame. Et on ne saura sans doute jamais qui dit vrai, car aujourd'hui les faits sont prescrits. En revanche, une certitude demeure. Le nazi de Salomé a bien fait vivre l'enfer sur terre à toute sa famille.
Maintenant, je vais essayer de tout oublier. Je vais refaire une vie toute neuve.
Ce texte écrit par Isabelle Spack et adapté par Bénédicte Aubry et Elsa Delaverne a été enregistré par Diane Mottez. Mixage de Julien Louette.
Vous avez écouté Fait d'hier. Nous attendons vos réactions et vos commentaires. N'hésitez pas aussi à nous noter sur les plateformes et à partager avec votre entourage. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle affaire criminelle.